Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 21 janvier 2021. Couverture complète de l'investiture de Joe Biden. Bonjour, bienvenue. La mission des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA, a dénoncé mercredi la tentative d'asphyxie de la capitale Bangui par une coalition armée qui cherche à renverser le président Faustin Archange Touadéra et alerter sur le drame social et humanitaire que pourrait subir la population. Depuis le début de l'offensive des rebelles, une semaine avant les élections présidentielles et législatives du 27 décembre, Bangui subit un blocus des principaux groupes armés qui contrôlent les deux tiers du territoire et ont mené plusieurs attaques sur les routes nationales reliant la capitale de ce pays enclavé au Cameroun voisin. Les forces de sécurité maliennes ont dispersé à coups de gaz lacrymogène mercredi à Bamako quelques centaines de manifestants qui protestaient contre la présence de la force anti-djihadiste française dans le pays malgré l'interdiction de leur rassemblement. La manifestation était programmée au moment où Paris se prépare à ajuster son effort militaire au Sahel, selon le mot du président Emmanuel Macron, perçu comme préfigurant une diminution des effectifs de Barkhane. Le gouvernement sénégalais a annoncé lundi la prolongation pour une période renouvelable d'un mois du couvre-feu nocturne en vigueur depuis début janvier dans deux régions, dont Dakar, pour tenter de stopper la progression du COVID-19. La mesure qui devait à l'origine expirer lundi avait été prolongée ce jour-là d'au moins 8 jours. Lors d'une communication en Conseil des ministres mercredi, le chef de l'État a souligné que l'état d'urgence n'est plus de vigueur, selon un communiqué du gouvernement sénégalais publié dans la soirée. Les violences au Darfour ont fait plus de 200 morts, ont indiqué mercredi des sources médicales, révisant ainsi à la hausse le bilan de 3 jours d'affrontements interethniques dans cette région de l'ouest du Soudan. Au total, au moins 214 morts ont péri lors des 3 jours de violence dans les deux États du Darfour, vaste région meurtrie par des années de conflit. Le déploiement de troupes a aidé à un retour au calme dans ces États. Les participants au dialogue politique interlibyen réunis en Égypte sont convenus mercredi de l'organisation d'un référendum sur la constitution avant les élections en décembre 2021 en Libye, pays miné par les divisions et l'insécurité. De nouveaux pourparlers interlibyens se tiendront en Égypte en février en vue de fixer la feuille de route pour le référendum et les élections, ont annoncé les autorités égyptiennes. La Libye, le Niger et le Zimbabwe ont récupéré leur droit de vote à l'Assemblée générale des Nations Unies après avoir payé une partie de leur dette à l'organisation pour récupérer leur droit de vote en 2021 sans pour autant être forcés d'éponger leur dette totale. La Libye, le Niger et le Zimbabwe devaient verser à l'ONU respectivement 705 391 dollars, 6 733 dollars et 81 770 dollars. Ici aux États-Unis, le Sénat a confirmé mercredi à une très large majorité la nomination de la directrice du renseignement américain, Avril Haines, premier membre de l'administration Biden à être adoubé par la Chambre haute au jour de l'investiture même du 46e président des États-Unis, ancien numéro 2 de la CIA, âgé de 51 ans. Elle va superviser et coordonner les activités de la CIA et de la NSA et de 15 autres agences de renseignement. Le Sénat a ensuite été ajourné jusqu'à ce jeudi midi, aujourd'hui donc, lorsque de nouveaux votes de confirmation pourront être annoncés. Le président américain Joe Biden aura demain vendredi un entretien téléphonique avec le premier ministre canadien Justin Trudeau pour son premier échange avec un dirigeant étranger, a annoncé mercredi la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki. Les deux dirigeants vont très certainement discuter des relations très importantes entre les États-Unis et son voisin du Nord, le Canada, et de la décision de M. Biden de bloquer le projet controversé d'oléoduc Keystone XL entre les deux pays. Ce projet soutenu par Ottawa, mais critiqué par les écologistes, avait été lancé en 2008, annulé une première fois par Barack Obama pour des raisons environnementales, puis remis sur les rails par Donald Trump pour des raisons économiques. VOA Afrique Info, en ligne de mire dans ce journal, le compte-rendu complet de l'investiture de Joe Biden, 46e président des États-Unis, comme si vous y étiez. Jean-Roger Billon à ce micro. On revient dans un instant, nous émettons de Washington. La suite de nos informations ce jeudi 21 janvier 2021 avec le compte-rendu de l'investiture de Joe Biden. Après son investiture et une cérémonie de dépôt de gerbes au cimetière national d'Arlington, le président Joe Biden s'est installé à la Maison-Blanche où il a signé une série de décrets dont l'un portant sur le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat. Le point avec Abdourahman Dia.
Dans le bureau ovale, le tout nouveau président Joe Biden a signé plusieurs décrets pour faire face aux crises que traverse l'Amérique et revenir sur certaines mesures prises par son prédécesseur en engageant notamment le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat. Il a aussi mis un terme au retrait de Washington de l'Organisation mondiale de la santé, annulé un décret migratoire qui interdisait aux ressortissants de pays en majorité musulmans d'entrer aux États-Unis et suspendu les travaux de construction d'un mur à la frontière sud avec le Mexique. Plusieurs des autres décrets sont liés à la lutte contre le COVID-19. Le président Biden a par ailleurs indiqué que son prédécesseur Donald Trump, qui n'a pas assisté à son investiture, lui a toutefois laissé à la Maison-Blanche une lettre qu'il a qualifiée d'aimable, mais n'a pas voulu donner dans les détails, soulignant que cela relevait du domaine privé.
Joe Biden a célébré la victoire de la démocratie après sa prestation de serment en tant que 46e président des États-Unis, en promettant d'œuvrer au rassemblement du pays après une période d'amertume et d'extrême division. L'un de nos reporters au Capitole, Arzuma Compaoré, a recueilli la réaction de quelques Américains à Washington.
Je me sens bien. J'anticipe définitivement l'innovation. Le changement fait une différence au sein de la nation. Biden semble être un partisan de la diversité et de l'inclusion. En regardant ses actions passées, comme celle d'il y a quelques jours, il a nommé des gens de différents horizons. Et il semble que Biden veuille vraiment nous ramener ensemble dans l'unité pour nous mener là où nous avons besoin d'être. Tout ce que j'espère, c'est que cette investiture se passe paisiblement. C'est mon souhait, que la transition se passe en douceur. Je souhaite que Trump se retire gracieusement. C'est tout ce que je souhaite.
Dans son discours d'investiture mercredi, Joe Biden a beaucoup insisté sur le thème de l'unité nationale. Le successeur de Donald Trump a salué une journée d'espoir et de démocratie pour l'Amérique. Les détails avec Bagassi Koura.
Joe Biden, qui accède au pouvoir dans un contexte particulier marqué par la contestation de sa victoire et des manifestations violentes le 6 janvier, a d'abord commencé par saluer la prévalence de la démocratie.
La volonté du peuple a été entendue. Et la volonté du peuple a été écoutée. Nous avons appris à nouveau que la démocratie est précieuse. La démocratie est fragile. Et à cette heure, mes amis, la démocratie a prévalu.
Biden, qui est maintenant à la tête d'une Amérique très divisée, a appelé à l'unité nationale.
Entendez-moi clairement, le désaccord ne doit pas conduire à la désunion. Et je vous promets ceci, je serai le président de tous les Américains. Tous les Américains.
À l'endroit du reste du monde, il a souligné le retour de Washington dans le leadership mondial.
Nous réparerons nos alliances et nous engagerons à nouveau avec le monde. Non pas pour relever les défis d'hier, mais les défis d'aujourd'hui et de demain. Et nous mènerons non seulement par l'exemple de notre puissance, mais par la puissance de notre exemple.
Le nouveau chef de la Maison-Blanche a évoqué les divisions raciales, les mouvements de suprémacistes blancs et la pandémie du COVID-19 qui, selon lui, a fait plus de morts américains que pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a invité ses compatriotes à mettre de côté la politique et à faire un front commun face à la pandémie.
We will rise to the occasion is the question. Will we master this rare and difficult hour?
Dans la foulée de l'investiture de Joe Biden et de Kamala Harris, trois nouveaux sénateurs démocrates ont prêté serment hier, donnant du coup le contrôle de la Chambre haute du Congrès au parti présidentiel. Arzuma Compaoré.
Kamala Harris, la vice-présidente, a présidé la prestation de serment de deux nouveaux sénateurs venus de la Géorgie, mais aussi de celui d'Alex Padilla, nommé pour la remplacer au Sénat. Raphaël Warnock, 51 ans, pasteur de l'ancienne église de Martin Luther King à Atlanta, devient le premier sénateur noir jamais élu en Géorgie. John Ossoff est, lui, le premier sénateur juif en Géorgie. À 33 ans, il est le plus jeune à siéger à la Chambre haute depuis Joe Biden en 1972. Avec ses victoires en Géorgie, les démocrates détiennent 50 sièges contre 50 pour les républicains. La Constitution américaine donne à la vice-présidente le pouvoir de départager les votes à égalité. Le Sénat est déjà à pied d'œuvre pour la confirmation des membres de l'administration Biden qui devra faire face à beaucoup d'urgences dans la lutte contre le coronavirus et relancer l'économie.
Les Africains ont suivi avec beaucoup d'intérêt le transfert pacifique du pouvoir ici aux États-Unis. L'exercice a retenu l'attention d'Ismaël Diallo, un fils du continent vivant aux États-Unis.
Oui, mais la première réaction est une réaction de soulagement pour beaucoup d'Américains et beaucoup d'autres, des millions d'autres personnes à travers le monde, parce que ce serait comme une sorte de retour à la normalité du point de vue comportement du chef de la Maison-Blanche. L'arrivée de Biden aujourd'hui, après 4 années de Trump, est une rupture, en ce sens que Trump a mis à jour et sur le devant de la scène le fondement, la nature intrinsèque du pouvoir et de la politique aux États-Unis, fondée sur la suprématie blanche. Utiliser cette expression suprématie blanche peut paraître exagéré et j'entends beaucoup de personnes éviter soigneusement cette expression. Et pourtant, c'est la simple réalité. Comme on dit en anglais, this is the naked truth of American history. Et aujourd'hui, les Américains sont obligés de le reconnaître.
Les Américains sont divisés et vous l'avez dit, cela est apparu au grand jour. Donald Trump a quitté la Maison Blanche sans attendre son successeur. Est-ce que Biden va réussir le pari de l'Amérique unie comme il le lance dans son discours?
Il va tenter de le faire. Réussira-t-il? Je doute qu'il réussisse en 4 ans. Surtout que Trump va continuer d'alimenter négativement, insidieusement, publiquement même, sa base.
L'autre défi urgent, c'est la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus. La plupart des Américains ont longtemps accusé Donald Trump de laxisme. Est-ce que vous pensez que Biden puisse relever également ce défi-là?
Il va mettre tout ce qu'il peut dans la dent. Il va recruter tout le personnel médical disponible. Il va faire former des gens rapidement, vacciner le maximum d'Américains qui voudraient être vaccinés le plus rapidement possible. Il s'est promis de vacciner 100 millions d'Américains en 100 jours. Cela fait 1 million par jour. Ce n'est pas impossible. Mais pourra-t-il le faire? Il faudrait qu'il y ait d'abord assez de vaccins, ce qui ne semble pas être le cas.
Parlant de politique extérieure, on sait que l'Europe, la plupart des dirigeants européens saluent cette arrivée de Biden au pouvoir. La politique américaine de l'Afrique va changer avec Biden radicalement par rapport à ce que faisait Trump.
Là également, je me sens obligé de tempérer les espérances. Il ne faut pas se faire d'illusions. La politique américaine n'a presque jamais évolué, changé vis-à-vis de l'Afrique. Presque jamais. Il y a eu quelques petits écarts, quelques petites différences, mais pas beaucoup. Et d'ailleurs, si l'on fait un examen assez minutieux des politiques des différents chefs d'État, on remarquera que les présidents républicains ont fait mieux que les présidents démocrates en Afrique, dans les faits, pas dans le discours. Oui, dans le discours, les présidents démocrates ont été lumineux, mais dans les faits, un Bush, par exemple, a fait mieux qu'un Barack Obama.
Les propos d'Ismaël Diallo ont été recueillis par Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion, toujours en votre compagnie. À présent, nos dossiers du jour. Enjeux et perspectives de l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche pour le continent africain. John Lydon a sollicité sur la question l'analyse du docteur Mohamed Camara, professeur et directeur du département d'études africaines à Howard University, ici aux États-Unis.
Écoutez, je crois que l'Afrique devrait saluer la venue de l'administration Biden pour au moins deux raisons. La première est que c'est la fin de l'administration Trump, qui, comme nous le savons, a été pratiquement, sinon hostile, du moins froide vis-à-vis de l'Afrique, ou en tout cas la politique du président Trump. Même si le département d'État et d'autres agences fédérales américaines n'ont pas tourné le dos à l'Afrique, le président lui-même, nous le savons, n'a pas du tout respecté l'Afrique et les pays noirs en général, y compris Haïti et d'autres. Mais la fin de cette administration turbulente de Trump nous ouvre une nouvelle avenue, l'Afrique, une nouvelle avenue pour l'Afrique vers l'Amérique. Ça fait un. Deux, Joe Biden, comme nous le savons, c'est l'ancien vice-président du premier président noir des États-Unis, Barack Obama, qui, lui, a toujours maintenu ses racines, ses relations avec l'Afrique, parce que son père était africain et parce qu'il se considère africain et plus africain que beaucoup d'autres. Alors, je pense qu'il y a ça. Mais il faut se dire la vérité. Joe Biden, c'est le président des États-Unis. Tout comme Barack Obama était le président des États-Unis, ce sont les intérêts stratégiques des États-Unis qui vont guider l'administration Biden. Il faudra que l'Afrique sache se positionner stratégiquement par rapport à cela pour que, quelles que soient les difficultés, les défis que l'administration Biden va rencontrer, parce qu'il y en a déjà beaucoup, disons la bonne foi et les bonnes relations qui avaient existé entre l'Afrique et les États-Unis au temps d'Obama vont renaître, nous l'espérons, et il faudra que l'Afrique se positionne stratégiquement parce que Biden devra pouvoir réconcilier, renouer l'Amérique avec tout le monde, y compris l'Europe occidentale, y compris l'Asie, y compris à toutes les autres régions du monde. Donc l'Afrique sera une parmi toutes ces régions-là.
Docteur Mohamed Camara, professeur et directeur du département d'études africaines à Howard University, ici aux États-Unis.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, l'investiture de Joe Biden comme 46e président des États-Unis. L'ancien vice-président de Barack Obama se donne comme mission d'unir un pays divisé suite à l'assaut contre le Capitole qui a obligé les autorités à fortifier Washington. Il a aussi annoncé un ambitieux plan de relance économique et un vaste programme de vaccination contre le Covid-19. Joe Biden annonce aussi une nouvelle dynamique dans les relations entre les États-Unis et le reste du monde. Avec nos invités, nous allons décortiquer le programme de Biden et le caractère historique de la vice-présidence de Kamala Harris. Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique, voafrique.com.
Parmi les dossiers auxquels Joe Biden et son administration devront faire face, il y a l'immigration, un sujet sur lequel il avait également bâti sa campagne. Il y a dans ce registre la régularisation du statut des Dreamers, la régularisation des 11 à 12 millions de sans-papiers qui vivent en ce moment aux États-Unis et surtout la vague de migrants en provenance du Honduras et qui souhaitent entrer en ce moment aux États-Unis. Je vous propose sur ces questions la réaction de Bakary Tandja, militant des droits des immigrants. Il est au micro de John Lydon.
Absolument, parce que l'immigration était l'un des piliers de sa campagne, bon, particulièrement les Dreamers. Ce qui est sûr et certain, leurs problèmes, ils sont totalement sécurisés. Bon, non seulement eux, Joe Biden a promis d'introduire la loi
sur la réforme de l'immigration pour permettre aux 11 millions d'immigrants illégaux ici aux États-Unis d'être régularisés avec la possibilité d'avoir la citoyenneté dans 8 ans.
Alors, à propos de ces 11 ou 12 millions d'illégaux, Joe Biden ne peut pas signer un executive order. Il faudrait qu'il compose avec les républicains. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils vont coopérer cette fois-ci?
Ils vont coopérer parce que ça, c'est un problème national reconnu par les démocrates et les républicains. Compte tenu en tout cas de la nouvelle dynamique avec la nouvelle administration, les démocrates contrôlent les deux chambres et la présidence. Et qu'à ces niveaux-là, ils pourront réellement négocier, d'autant plus que dans le camp républicain, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, qui veulent que ce problème soit réglé. C'est devenu une sorte de cancer parce que tant que on n'y fait pas face, ce n'est pas une barre de glace qui va fondre sous le soleil. Il faut l'attaquer, il faut le régler, et c'est l'occasion.
Et par rapport toujours à l'immigration, Donald Trump avait fait de la construction d'un mur son principal message de campagne. Joe Biden a dit qu'il ne va plus mettre un seul sou dans ce mur. Et on voit depuis quelques jours l'arrivée des migrants qui viennent d'Honduras. Comment Biden va-t-il se comporter face à ces arrivées-là?
Par rapport à cette situation, comme Joe Biden l'a dit, son administration, c'est l'ouverture, c'est la réparation des relations sur le plan international, c'est projeter une nouvelle image des États-Unis, bon, ça veut dire respecter les conventions internationales, les traités, se baser sur la loi et également prêter une attention particulière aux droits de l'homme. D'ailleurs, celui qui va être le nouveau ministre des Affaires étrangères, c'est quelqu'un qui est très orienté sur les droits de l'homme. Donc, ils feront la part des choses pour apprécier la situation de ces personnes qui arrivent à la lumière des conventions internationales et des principes des droits de l'homme.
Bakary Tandja, militant des droits des immigrants, il est au micro de John Lindon.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, entre dans l'histoire américaine cette semaine en devenant la première femme à occuper cette position. Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès, dresse le portrait de Kamala Harris. Dili Diko raconte.
Un moment historique aux États-Unis. Bien que je sois la première femme à occuper ce poste, je ne serai pas la dernière. Kamala Harris, 56 ans, remercie Joe Biden et les électeurs de l'avoir choisie pour devenir la première femme américaine noire et d'origine indienne à occuper le poste de vice-présidente des États-Unis.
Nous avons eu des femmes à la Cour suprême, nous avons Nancy Pelosi en tant que présidente de la Chambre des représentants, mais nous n'avons jamais eu au sommet de l'exécutif, car nous n'avons jamais eu de femme vice-présidente, pas de femme présidente. Mais au-delà, c'est une femme de couleur, une femme avec des parents immigrés qui sont venus dans ce pays pour une vie meilleure.
Fille d'une mère indienne et d'un père jamaïcain, Harris est née à Oakland, en Californie. Une peinture a été faite à son effigie sur les murs de son école à Berkeley, en Californie, qu'elle fréquentait dans le cadre de politiques d'intégration raciale.
Elle a brisé tant de plafonds de verre pour tant de femmes.
Diplômée de l'université Howard, une université entièrement noire à Washington, D.C., Harris est devenue la première femme noire procureure de San Francisco en 2004, puis procureure générale de la Californie en 2010. Lors des manifestations de Black Lives Matter au cours de l'été 2020, certains progressistes se sont plaints en disant que Harris avait été une procureure beaucoup plus stricte qu'elle ne l'avait laissé entendre.
qu'elle avait pris des positions contradictoires sur la peine de mort et qu'elle n'avait pas tenu la police responsable de certaines actions. Harris est entrée dans l'histoire en Californie lorsqu'elle a été élue au Sénat américain.
Il est important que les gens voient au pouvoir des gens qui leur ressemblent.
Harris, qui parle souvent de son rôle de tante et de belle-mère, est mariée à l'avocat Doug Emhoff, qui sera désormais le deuxième gentleman, une position entièrement nouvelle dans l'histoire de la Maison-Blanche. Même si le travail le plus important pour un vice-président est d'être prêt à intervenir pour le président en cas de besoin, les analystes disent que Harris pourrait également mettre à profit ses premières historiques.
Elle pourrait être une femme d'État représentant les États-Unis dans le monde. Je pense également qu'elle voyagera à l'intérieur des États-Unis pour montrer le symbolisme de ce qu'elle fait.
Kamala Harris a donc un nouveau rôle à la Maison-Blanche, un rôle célébré à travers le monde, mais surtout à l'autre bout de la planète, dans son village ancestral en Inde.
Ici Roger Montout de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition spéciale, compte rendu de l'investiture du président Joe Biden, présentation Jean-Roger Billon, mise en onde Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet VOA Afrique. rfi.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Excellente journée à tous.